Mesdames, messieurs, toutes les personnes entrées au-delà.
Bonsoir Paris.
Salut. Yeah. Alors bienvenue.
C'est symptomatique de la présence des lobbies dans les cercles du pouvoir.
I'm like so gay, dude.
Si vous dites à un homosexuel, vous êtes homosexuel, il n'a pas de souci.
Je pensais avoir tout vu, ou presque, des agissements des lobbies. Ils sont
dans les campagnes, dans les villes. Darling, I want my gay right now. Si tu dis à un homosexuel, tu es une folle, c'est pas le même registre.
Et je crois qu'il faut toujours écouter les personnes concernées.
Moi, je sais bien quand c'est sexiste, je me rends compte assez vite quand même.
C'est toujours les plus à même de raconter leurs histoires.
Le lobby sur Radio Campus Paris.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Le Lobby, une heure de radio par et pour les personnes queer et c'est eux qui se cherchent encore. On est ensemble en direct jusqu'à 21h, toujours avec une fine équipe réunie ce soir. Bonsoir tout le monde.
Bonsoir.
Alors le tout le monde, c'est d'abord Chat alias Percastine, salut.
Salut Colin.
De quoi on parle ce soir?
Moi je suis moins télécrochet que téléshopping, du coup on va parler chiffon ce soir.
Très bien, oui, parce qu'on va parler un peu plus télécrochet dans le reste de l'émission, mais je ne l'ai pas encore annoncé. Bonjour, j'avais la Bibi.
Bonsoir Colin.
Mais ça fait plaisir de tous vous retrouver parce qu'en fait on n'a pas fait d'émission en janvier, donc on se souhaite la bonne année le 3 février, c'est une catastrophe. Comment ça va?
Bah très bien.
De quoi on parle?
On parle de Jodie Foster, on parle de science-fiction et de l'importance de savoir écouter.
Miam miam miam, tout ça ce sera en fin d'émission. À ma gauche il y a Alexis.
Bonsoir Colin.
Ça va?
Bah ça va.
Je ne te demande pas de quoi tu vas parler parce que t'es là un petit peu, genre juste t'es content d'être là en fait.
Et c'est bah, ça qui compte. Toujours évidemment, c'est ça. En tant que fan, comme tu le disais, c'est un job à plein temps déjà de Star Academy.
Absolument, oh là là, il spoil le contenu de l'émission. Et puis sur ma droite, il y a deux joyeux lurons. Ce sont Nagwin et Nikos Aliagay. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
On est ravis de vous accueillir. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur ce que vous nous proposez dans cette émission?
On va vous proposer un petit jeu en fin d'émission pour vous à la maison et pour vous autour de la table.
Voilà, rendez-vous à 20h45. Alors on le sait, nous les queeros, nos étés sont depuis 4 ans rythmés par la diffusion de Drag Race France et nos hivers ne sont pas en reste puisque nous passons tous nos samedis soirs devant la Star Academy, qui l'eût cru, le télécrochet de TF1 qui, il y a 20 ans, laissait Jean-Pascal traiter tout le monde de PD dans la quasi-indifférence générale. Eh bien cette émission fait de plus en plus la part belle à des candidats queer, de plus en plus ouvertement queer. Samedi dernier, Victor a quitté l'aventure aux portes de la finale, c'était le dernier candidat PD, mais ça fait tout de même plusieurs semaines que l'intégralité des hommes hétérosexuels du casting ont été éliminés, ce qui n'est pas pour nous déplaire. Alors le lobby LGBT a-t-il définitivement pris le pouvoir sur Endemol ou ne faut-il y voir qu'un mirage gay? On va en parler avec notre invité, c'est une fan de la première heure de la Star Academy et une habituée bien sûr de notre studio, Chris D'Acugna est notre invité.
Bonjour à tous, fan de la première heure, ça fait vraiment vieille, mais oui j'ai suivi les premières saisons.
Le lobby Radio Campus Paris.
Les premières saisons, ça nous renvoie à 2001, ça, en fait.
Ouais, c'est ça.
Voilà, c'est Jennifer. Salut, Chris.
Salut, ça va bien l'équipe?
Ouais, du ça fait hyper plaisir de te voir ici, dis donc.
Et ben moi aussi, c'est un petit retour à la maison.
Retour à la maison. Plaisir. Bienvenue dans le lobby. Alors, on t'a déjà reçu ici pour parler dans le mille de la Star Academy, c'était il y a 2 ans. À l'époque, on avait parlé de comment ce programme emblématique de TF1 avait évolué sur les questions LGBT depuis donc, cette fameuse première saison de 2001. Aujourd'hui, on va surtout s'intéresser à cette saison 25-26 qui va se terminer samedi, ça sera la finale. Peut-être que pour les gens qui nous écoutent et qui ne savent pas très bien de quoi on parle et qui vivent dans une grotte, tu peux nous dire en quelques mots ce que c'est la Star Academy, Chris?
La Star Academy, c'est un télécrochet, mais un peu particulier, qui est mélangé avec de la télé-réalité parce qu'on les voit vivre au quotidien, 24 heures sur 24. Et donc, c'était la première saison, donc, a eu lieu en 2001, dont Jen a été victorieuse. Et en fait, il y a eu un reboot. Là, on est à la 4e saison du reboot, qui fait quand même pas mal parler et qui a des audiences plutôt cool. Et justement, avec une nouvelle vibe, notamment avec une nouvelle génération de personnes, avec aussi un peu plus de bienveillance, même si elle est un peu plus questionnée cette saison-là. Mais en tout cas, avec des candidats et candidates beaucoup plus dans la bienveillance. Et aussi de meilleures représentations de manière globale.
La saison, elle a commencé en octobre, c'était il y a très 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 longtemps. Est-ce que tu es quand même un peu content de pouvoir retrouver une vie avec la fin de cette saison? Ou est-ce que tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire de mes samedis soirs maintenant? Ça crée un petit vide quand même.
Bah oui, mais en même temps, effectivement, c'est un marathon, comme tu le disais, c'est un job à plein temps parce que du coup, il y a du contenu sur les réseaux, il y a du contenu 24-24, il y a du contenu les quotidiennes.
Parce que voilà,
il
y a le prime le samedi soir à 21h15, il y a des quotidiennes tous les soirs à peu près à 17h.
Ouais, effectivement. Et en plus, ils étaient beaucoup cette saison, donc il y a eu beaucoup de semaines. Et bon, il y a eu des hauts, il y a eu des bas.
Une question que je te pose à toi, Chris, mais Alexis, ça m'intéresse aussi. Un peu un avis global sur cette saison. Tu l'as un petit peu donné, Chris, effectivement, plus de bienveillance, de meilleure représentation. On est quand même plutôt conquis par cette saison.
Vas-y.
Oui.
Si, ouais.
Oui, oui, c'est vrai. Non, en fait, ce que j'ai remarqué, surtout dans cette saison, sur les questions des candidats qui sont queer, c'est que c'est vraiment mis en avant et on en parle concrètement, ouais, plus que dans les saisons précédentes. Les professeurs en parlent avec les élèves concernés, de leur histoire de vie, etc., de comment est-ce qu'ils veulent, eux, se représenter dans leur art, etc. Et voilà, c'est que je trouvais intéressant cette année.
Il y a aussi un certain attachement émotionnel que peut-être on avait un peu moins les années précédentes. Je me souviens, Chris, on a commenté en direct la finale de la saison qui opposait Pierre à Julien. Bon, on en avait un peu rien à foutre du résultat, quoi. Là, il y a quand même... Enfin, moi, personnellement, je sais que j'ai beaucoup voté cette saison. Je ne sais pas si c'est ton cas également.
Bah, la saison 2 était quand même une saison particulièrement forte, mais c'est le cas de souvent quand même dans les télé-réalités. Drag Race saison 2, c'est quand même...
Oui.
Du coup, il y a toujours cette petite comparaison qui est difficile, parce que est-ce qu'on refera un jour une saison 2 aussi forte, autant dans Drag Race que dans la Starac. Mais par contre, elle était vraiment... Moi, en tout cas, j'ai préféré à la précédente, parce que là, les personnages étaient plus... Je sais pas, plus varié, effectivement, plus de queerness. Et moi, je l'ai bien aimé celle-là. Et je trouvais que les profs étaient bien aussi, étaient intéressants.
T'as préféré cette saison 4 à la saison 2 de Star.
Exactement.
De
et c'est vrai qu'on parle des candidats, mais Jonathan apporte son petit lot de.
Le prof de danse.
Ouais.
Il y a beaucoup trop de trucs à dire. On n'aura pas le temps faire le tour de la question. Alors, on va rentrer quand même un petit peu dans les détails, parce qu'il y a quelques candidats emblématiques. J'ai parlé de Victor, je crois. Oui, Victor qui a été éliminé la semaine dernière. Tu nous resitues un petit peu qui c'est, Victor ?
Victor, bah, c'est un candidat qui a commencé très très fort. Il était dans le top dans les premières semaines. Dès la première semaine. Et donc, du coup, il a fait un effet waouh. Il a fait vraiment un parcours où il a plutôt dégringolé. Et ensuite, il est remonté à la fin. J'avoue, moi, je ne m'attendais pas à le voir en finale, parce que je pensais justement que ça allait être juste une descente aux enfers. Ils allaient dire un PD de moins, c'est toujours ça de plus. Et en fait, je pense que les gens sont vachement attachés à son histoire. Et en fait, tout son narratif, mais qu'il a réussi à contrer, parce que je pense qu'il a réussi à comprendre aussi les codes de l'émission et ce qu'on attendait de lui. Mais tout son narratif, c'était soit plus flamboyant, soit plus gay, en gros. Ouais. En fait, c'est ce qu'il lui demandait dans l'émission, de sortir de sa coquille. Ce que je trouvais quand même hyper dur, et ça faisait vachement écho à la personne queer que je suis. On apprend dans la vie à évoluer pour cacher toute cette partie de nous. Et là, en fait, on est exposé au monde. Enfin, au monde, pardon, je m'emballe.
À l'univers. Entier.
Mais en tout cas, une bonne partie de la France, parce que dès son portrait, Victor, il s'est quand même pris un sacré tollé sur les réseaux, parce que justement, il était un peu flamboyant. Alors qu'en plus, ils ont pas méga insisté sur le côté drag, parce que c'est aussi un performer. Et mais du coup, ils ont pas trop insisté dessus. Mais même juste en montrant un tout petit peu, déjà, c'était un peu trop. Et donc, du coup, on nous apprend dans la société à justement cacher toute cette part de nous. Lui, il a intégré tout ça et ça se voyait. Et en fait, on lui reproche, on lui dit mais vas-y, mais en fait, t'as juste à faire ça. Et en fait, comme si c'était simple, comme si c'était qu'un choix. Et du coup, je trouvais ça dur de le voir mis en scène. Ouais. Et en même temps,
on le voit galérer, on le voit sur des cours de théâtre. Il est vraiment en panique parce qu'il faut qu'il improvise devant un public. Enfin, c'est vraiment dur à voir parfois. Quoi.
C'est vraiment dur à voir. Et puis, mais on voit qu'à un moment donné, il a un déclic. Alors, qui est peut-être mis en scène aussi en disant bon, il faut que je joue. Ok, c'est ça qu'on attend de moi. J'ai le déclic, je remonte, je montre un petit peu plus de moi et j'assume. Les conséquences, c'est pas grave, mais en tout cas, c'est un beau parcours et un bel exemple de.
Et autant c'est difficile de le voir galérer, autant ça fait aussi vachement de bien de le voir se révéler. Enfin, il y a aussi quelque chose de très beau dans cette séquence. Ouais. Un autre candidat emblématique, c'est Bastian. Bon, alors Bastian, pareil, en quelques mots, il y a beaucoup de choses à dire. Tu veux y aller peut-être, Alexis, là-dessus
Bastian, je sais pas, j'ai... Enfin, pour moi, j'ai peut-être moins de choses à dire sur Bastian qui n'a pas forcément ce côté justement drag et qui veut s'imposer sur une scène queer, etc. Il le met moins en avant, en tout cas. Mais justement, c'est intéressant aussi d'avoir ce genre de candidat-là à côté de Victor. Et du coup, ce qui était mignon à voir, joli à voir, c'était la relation qu'il pouvait avoir avec
Victor.
On va
beaucoup en parler. Voilà, Bastian, ça reste quand même un sacré performeur. C'est un danseur hors pair qu'on a vu même encore progresser au fur et à mesure des émissions. Il y a notamment un super prime où il danse à côté de Aya Nakamura. C'est quand même assez incroyable. Et il y a bien sûr le tableau chanté dansé sur Tainted Love. Il y a beaucoup de choses à dire. Pareil, quelques mots sur Bastian, peut-être, Chris.
C'est vrai que je rebondis, mais c'est vrai que c'est hyper beau de voir cette amitié entre deux personnes queer qui... On voit sur quoi ils relate et et c'est hyper beau à voir, même si aussi on aimerait voir aussi des histoires d'amour queer comme ça a pu être le cas. Il y avait aussi un espèce de reboot de la Starac en Espagne où il y avait justement un couple homo qui a beaucoup fait parler, qui a été très mis en scène, très mis en avant, et du coup bah, c'était hyper beau parce qu'on l'a vraiment jamais vu. Et puis voilà, on aurait peut-être espéré une petite amourette Mélissa et Lily, mais bon, on attend toujours.
Alors voilà, d'autres candidates effectivement dont j'ai envie de parler, on va aller un petit peu plus vite. Il y a effectivement Mélissa. Je crois que Victor et Bastian, c'est un peu les seuls candidats vraiment ouvertement queer, mais c'est probablement pas les seuls candidats queer quand même. On va peut-être parler du cas Mélissa.
Mélissa, c'est vrai que en fait, la particularité quand même à préciser aussi, c'est que particulièrement sur ce reboot, c'était peut-être moins le cas avant, mais ils sont très jeunes quand même.
Ouais. Mélissa a 19 ans.
Ouais, exactement. Mmh. Donc en fait, c'est possible aussi qu'ils soient dans des périodes aussi où ils s'interrogent, et puis il y a aussi quand même le fait que c'est une télé-réalité où ils s'exposent devant plein de monde, et possiblement aussi, même s'ils sont peut-être out devant leurs amis, mais peut-être pas devant leur famille, ou peut-être pas dans la famille élargie. Donc en fait, c'est toujours dur de se dire, bon, est-ce que juste c'est quelque chose dont ils parlent pas, ou en fait quelque chose qui est pas encore vraiment ancré. Mais c'est vrai que Mélissa, on espère qu'elle fait partie de la team.
Ah oui. Et puis une autre candidate, important d'en parler, puisque l'année dernière, la finale opposait Marine, qui était un peu la goofy queen, qui a depuis sorti des titres assez TF1 compatibles, disons, on en pense qu'on veut, face à Ebony, qui était une candidate noire, qui a très vite affiché son objectif, qui était de devenir la Beyoncé française. C'est aussi une candidate qui a subi beaucoup de racisme sur les réseaux sociaux. Elle s'est inclinée en finale face à sa concurrente. Alors, je me souviens qu'à l'époque, tout Instagram était en mode « c'est un choix de civilisation, vous vous rendez compte, on va faire gagner une Marine blanche à 2 ans d'élection présidentielle ». Et puis, forcément, on a un peu envie, alors peut-être c'est un réflexe un petit peu raciste de ma part, mais de la comparer à Sarah, qui est quand même super forte. C'est pas tout à fait le même type de personnage, peut-être qu'on pourra en reparler plus tard, et qui a été éliminée. C'était une des premières fois qu'elle se retrouvait d'ailleurs menacée il y a 2 semaines. Peut-être tu peux nous présenter un petit peu plus Sarah en détail, mais est-ce que son élimination, elle t'a surprise, déçue? Est-ce qu'on pouvait s'y attendre? Est-ce qu'on fait un lien directement avec un certain racisme latent du public ou de la part de la production? Je ne saurais pas.
C'était ma gagnante depuis semaine 2. Je pense vraiment qu'elle était exceptionnelle, mais dès le début, moi, je me suis aussi dit qu'est-ce qu'elle fait là? Je ne sais pas trop ce qu'elle a à apprendre. Franchement, elle était très très loin, à la fois dans sa technique, mais aussi dans qui elle était artistiquement. Alors, et ce qui n'est pas du coup très Star Academy compatible, on aime bien ce narratif de « c'est une école et on vous apprend à devenir qui vous êtes, à vous trouver ». Sarah, clairement, elle sait qui elle est en tant qu'artiste. Donc du coup, je pense que c'était dur, et on l'a vu, en tout cas, je l'ai ressenti un peu s'éteindre au fur et à mesure, parce que bon, je joue le jeu, c'était la bonne élève, elle joue le jeu, elle sait qui elle est, les critiques, elle les écoute, mais bon, elle sait pourquoi elle fait les choix, c'est jamais accidentel en fait.
On avait un peu ça avec Ebony pour le coup, ce côté bonne élève, mais en même temps aussi bête de scène, qui pendant les débriefs est très sage, et puis qui est sur scène explose complètement. Il y avait un petit peu ça aussi.
Exactement, et puis après aussi, je pense que les personnes racisées à la télé ont aussi un peu de faire très attention à ce qu'elles disent, à pas élever plus haut que la voix sur ce narratif de la personne racisée qui va s'énerver. Donc en fait, je pense qu'elles s'autopolissent aussi beaucoup, donc il n'y a pas beaucoup de place aussi pour peut-être plus de folie ou d'expérimentation. Et voilà, artistiquement, je ne me fais pas trop de soucis pour elle. Je pense que c'est une super plateforme, c'est cool qu'elle soit allée aussi loin.
Et on a pu voir du coup une super reprise de Where is My Husband de Ray, absolument incroyable. Il faut aller la voir si vous n'avez pas vu cette séquence. Chris, on va continuer à débriefer ensemble donc cette saison de la Star Academy à quelques jours de la finale. Et pour se mettre en jambe, pourquoi ne pas écouter Djibril, candidat de la saison 2022-2023? C'est un peu notre chouchou quand même.
Complètement. Et son l'EP qu'il a sorti est incroyable.
On écoute Cirque sur Radio Campus Paris.
Bienvenue au cirque, je suis sur le point de commencer. Zoom un peu par ici s'il te plaît, car mon visage n'est pas bien centré. Bête, jolie, fesse, agile, laisse envie de jouer. T'aimes bien consommer, bien assumer, semble compliqué. Dis-leur qui t'es, ce que tu fais, déchirer après minuit. Plus easy dans le noir, l'endroit n'est clair que moi, car je suis le monstre. Ouais, tout est bien de ma faute. C'est comme ça que moi.
faux. Je suis cette petite voix qui titille ton esprit. T'es les faux. Je suis la bêtise, je suis la fraude. Je suis trop belle, mais je suis pas beau. Je suis l'attraction du siècle. Prends ton billet, billet, pas mille. Crash dans la soupe. Amil se croit mieux que nous. Amil râle tous les jours. Dis-lui qu'il n'a pas trop d'atouts. Que ce jeu d'Ilou, elle devient lourd. Dis-lui que si je le croise un jour, qu'il ne s'approche surtout pas de nous. Car je suis le monstre. Ouais, ouais, tout est bien de ma faute. C'est comme ça qu'on voit les autres. Ouais, 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 ouais. La lune ne fait briller que moi. Car je suis le monstre. Ouais, ouais, tout est bien de ma faute.
Jébril, c'était Cirque à l'instant sur Radio Campus Paris dans le lobby où il est 20h17.
Le lobby Radio Campus
Paris, yeah. Et ce soir, on débriefe la Star Academy avec un regard queer et avec celui de Chris qui est toujours avec nous. Alors un fait non négligeable de cette saison, Chris, c'est que, donc, je le disais, les mecs hétéros ont tous été dégagés les uns après les autres. C'était vraiment... un effet domino, quoi. Ça fait au moins un bon mois qu'il n'y a plus que des meufs et des PD à Damaril Hélice.
Et on a attendu longtemps le départ de Théo, quand même.
Oui, il a résisté.
Ouais, parce que, on voulait justement se dire. Mais moi, j'espérais vraiment une tournée avec que des girls and queers.
Ouais.
Ça a failli. Mais bon, c'est déjà un bon score.
Et alors, c'est assez rigolo d'ailleurs qu'on a vu que Théo. Alors après, il faut aussi rappeler qu'ils sont soumis à une pression gigantesque, qu'ils ont énormément de travail, ils sont filmés en permanence, c'est horrible. Mais Théo, le moment où il a flanché, c'est le moment où son dernier buddy qui était donc Léo a été éliminé quand même. Il y avait une certaine solidarité entre ces deux là quoi.
Complètement. Et du coup mais du coup une plus forte solidarité aussi entre justement ce fameux duo Victor Bastian, entre les filles qui étaient aussi hyper solidaires. Donc ça c'est cool, ça a pesé quand même dans la balance sur la longueur.
Ça fait hyper plaisir. On va en parler justement. Victor, il a été tu l'as dit tout à l'heure un peu sur la sellette plusieurs fois, il a été nominé plusieurs fois avant son élimination samedi dernier. Et peut-être que le moment le plus surprenant, c'était le soir, il a été sauvé face à Anouk, qui était vraiment l'ultra favorite de la saison, qui était très TF1 compatible. Elle était très blanche, très belle, sans doute très hétéro. Elle a fait beaucoup de prestations dans une grande robe blanche virginale.
C'était quand même des petits retweets du FN qui font jamais de mal pour TF1.
J'avais oublié cette information. Bon, donc c'est quand même intéressant. Tu penses que... qu'est-ce qu'il faut en conclure? Parce que personne ne s'attendait à cette élimination d'Anouk à ce moment-là. Est-ce que ça dit quelque chose du public de TF1? Parce qu'on en parle souvent avec ma coloc, avec des gens avec qui je regarde la Star Academy. Et au début, on était genre, de toute façon, le public de TF1 sont tous fachos. Sauf que maintenant, c'est nous, le public de TF1. Donc...
alors, je pense qu'il y a un facteur non négligeable, c'est qu'Anouk, elle n'est pas française et qu'elle est belge. Et du coup, je pense que... Et les Belges ne peuvent pas voter. Et je pense que ça joue quand même un peu dans la balance. C'est pas négligeable dans justement le fait... Parce que c'est vrai que c'était quand même une surprise qu'Anouk continue. Moi c'est juste comme ça que je me l'explique et puis ouais je pense que Victor il est attachant et que Anouk peut-être qu'elle avait fait son temps aussi pareil dans le storytelling et peut-être que les gens en avaient un peu marre.
Peut-être. Alors, ce que vous le disiez tout à l'heure, effectivement, il y a eu une super belle relation entre Victor et Bastian, avec beaucoup de démonstrations d'affection l'un envers l'autre dès le premier prime. Et puis, c'est aussi des PD qui parlent de leur vie de PD, et pas seulement sous l'angle du harcèlement homophobe, ce qui est quand même assez novateur. Victor, il a aussi beaucoup parlé, alors c'est pas beaucoup positif, mais de ses échecs sentimentaux et amoureux. Assez tôt dans l'aventure, ils ont aussi beaucoup partagé leurs expériences, en disant, voilà, est-ce que toi aussi t'avais des crushs sur les mecs hétéros au lycée, etc. Ça, c'est quand même complètement nouveau, ce truc de PD qui raconte leur expérience au-delà du prisme misérabiliste.
Et ouais, complètement. Et je pense aussi à une séquence qui m'a marqué, mais très récente, où Victor parle de son genre et de son exploration de
son
genre.
On y vient plus tard.
Mince, je sais pas. Mais oui, je pense aussi à une performance aussi où il chante Bad Boy, Victor.
On y vient plus tard aussi.
Oh là là, mince, je spoil le tout.
Bah, en fait, on y vient plus tard.
C'est vrai que les homosexuels à la télé, ça me fait toujours penser à Will and Grace, où c'est quand même une série américaine autour d'un homme homosexuel qu'on voit embrasser un homme au bout de 6 saisons. Et donc, du coup, on aime bien les homosexuels à la télé, mais il ne faut pas que ce soit des hommes qui couchent avec des hommes. Il faut que ce soit dans le folklore homosexuel qui aime Lady Gaga, et c'est tout. Mais par contre, il ne faut surtout pas qu'on les voit s'embrasser, il ne faut pas qu'on les voit être homosexuel. Et donc du coup là, le fait qu'ils parlent de relations, qu'ils parlent de leurs copains, qu'ils parlent de bah de leurs ex, de ces choses là, bah en fait oui, ça fait plaisir. C'est des personnes entières et on reste pas en surface.
Oui, on en a parlé il y a deux semaines. Je me souviens que l'autre invitée, donc Maureen Lepers qu'on embrasse, elle disait Djibril et Axel, qui étaient les candidats PD de leur saison, ils ont une homosexualité qui est complètement désincarnée. Il y a personne qui les attend. Ils parlent de personne. Bon là, en tant que Victor et Bastian, je sais pas s'il y a qui que ce soit qui les attend. Ils en ont pas parlé non plus. Mais ils parlent quand même de leur homosexualité comme quelque chose qu'ils vivent, quelque chose qu'ils pratiquent aussi, quoi.
Ouais. Oui, non,
vas-y. Non, vas-y, je t'en prie.
oui, non, mais effectivement, c'est ça, c'est quelque chose qui, moi, quand j'ai vu ça, m'avait un peu surpris, quoi, ouais. À vrai dire, parce que, bah, effectivement, on n'a jamais été habitué dans les autres saisons à voir ça. Donc ouais, c'était assez surprenant. Et même au-delà de ça, enfin. Je trouve que malgré ça, on pourrait aller plus loin, peut-être même dans la manière dont on représente ce qu'ils font aussi à l'extérieur de l'émission. Par exemple, Victor qui fait du drag, il en a parlé genre 2 minutes à la fin de la saison en plus.
Alors même qu'il y a quelqu'un dans le corps professoral, Marlène Schaaf, voilà. Qui elle-même fait du drag, qui fait très vaguement référence.
Exactement. Et alors que ça fait aussi partie de son âme d'artiste pour le coup. Et voilà, ça pourrait être aussi mis en avant, je pense.
Au moins, une séquence que j'ai adorée, c'est celle-ci.
En tout cas, j'adore le plus dans le pantalon. Voilà, hein. C'est très beau. Parfait. Merci. Après, je pense que mon avis n'est pas objectif.
Voilà, mon avis n'est pas objectif. Ça, c'est Victor qui drague un petit peu Bastian dans la salle de bain du château de Damarie-Lélis. Ça, c'est quand même assez fou comme séquence, je trouve. Comment est-ce que vous l'avez reçu, vous? Enfin, en plus, alors, bon, il y a beaucoup de trucs à dire parce que c'est assez fou comme séquence et en même temps, je crois pas qu'elle ait été beaucoup mise en avant.
Je sais pas la manière dont elle a été mise en avant durant les quotidiennes, mais je trouve qu'elle a quand même été reprise sur les réseaux sociaux pas mal. Et puis ce qui est amusant, je sais pas, mais c'est Victor qui a fait une interview récemment sur Youssly, un média de pop culture, et qui parle de son crush sur Bastian. Donc, je trouve ça sympa et cool que Victor puisse en parler comme ça naturellement, que je sais pas, il n'ait pas été bridé par la production ou autre.
Apparemment, il a même fait une chanson, il dit dans cette interview.
Ouais. C'est ça.
Toi, Chris, c'est intéressant ce que tu dis, Alexis, parce que tu dis effectivement ça a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux et moi j'ai l'impression que c'est surtout comme ça effectivement que j'ai eu accès à cette séquence. Là, l'extrait que j'ai pris, il est même extrait d'une vidéo beaucoup plus longue d'un internaute, j'ai quel âge, qui s'appelle Vico Proz et qui fait une espèce de compilation comme ça de plein de moments où Victor et Bastian se témoignent de l'affection. Moi, j'ai les larmes aux yeux à chaque fois que je les vois et du coup, ça nous fait penser que on a vu, mais pendant des quotidiennes et des quotidiennes, Théo et Léane, puis une fois qu'ils ont été éliminés, on a vu Jeanne et Léo, et on n'a jamais vu Victor et Bastian sous cet angle-là. C'est quand même trop dommage, alors qu'il y avait de quoi faire.
On va les chercher, nous, ces petits moments, même s'ils sont parfois inventés. Il y a eu une grosse séquence aussi autour d'un soi-disant baiser entre Ambre et Mélissa, qui était vrai ou pas.
Je l'ai vu. Moi, il est apparu sur mon feed de TikTok, alors que je n'ai pas du tout suivi la Starac, donc j'ai eu accès à cet extrait-là.
On va les chercher. On a envie de les voir, ces signaux-là. C'est dommage qu'ils ne soient pas mis en avant, mais on reste quand même dans une émission qui, même si elle fait une petite place aux personnes, déjà une petite place aux personnes racisées, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, une petite place aux personnes queer, on reste dans un narratif très hétéro-patriarcal. Je me rappelle l'année dernière, là, où ils avaient mis en scène une espèce de mariage entre Marine et Ulysse, qui était son crush de l'époque.
Oui, c'était très gênant.
Qui était très gênant.
Mais d'ailleurs, on a eu de nouveau ça, je crois, avec Théane et Léo. Je ne sais
complètement.
Théane et Léo, je savais que j'allais le faire. Léane et Théo. Complètement. Je ne sais plus sur quelle chanson, mais.
Très mise en scène.
Les filles d'aujourd'hui.
Oui, exactement. Et puis, la comédie musicale, qui est quand même, dont les stars étaient Anouk et Bastian. En fait, qu'est-ce qui aurait empêché que les stars, ce soit Bastian et Victor, ou Bastian et quelqu'un d'autre qui n'est pas gay.
Bastian joue l'hétérosexuel, et c'est quand même peu crédible.
Mais ça aurait été inconcevable que. que ce soit dans l'autre sens. Et voilà, on est toujours dans ce narratif, on nous vend toujours ce voilà cette on reste cette petite exception qui amuse la galerie.
Ils n'ont jamais chanté ensemble d'ailleurs, alors qu'ils sont quand même restés très longtemps. Ils n'ont jamais eu de duo en tout cas, quoi.
Non, jamais. On n'a pas trop envie de les voir.
Allez, on va continuer dans un instant à débriefer de cette saison de la Star Academy avec toi, Chris. Mais d'abord, mais vite, que l'on m'apporte un chapeau, une ombrelle, des lunettes de soleil. Père Castagne, vous rayonnez au point de m'éblouir.
Ah, mon bon Colin, pardonne cet excès de liesse. Je ne puis le contenir, je suis bonheur, je suis douceur, j'exulte la joie. Et pourquoi ça, me direz-vous ? Je vais vous le dire, oui, vous qui êtes autour de cette table, tel que vous me voyez, j'ai réalisé le rêve de beaucoup de Parisiennes et de Parisiens. J'ai réussi à déménager.
Oh, waouh !
Et il était temps, parce que mon ancien appartement voulait ma peau. Entre les fissures, les trous dans la façade et la moisissure persistante, j'ai bien failli y rester. Ce n'est qu'en faisant le grand ménage avant l'état des lieux de sortie que j'ai compris pourquoi tant de haine, pourquoi moi. Imaginez la scène. Sur les murs que j'avais recouverts de drapeaux trans et lesbiens, du papier peint. Et sur ce papier peint, des fleurs de lys. Partout. Mon appart était royaliste.
Mais quelle horreur ! Mais le diable est donc dans les détails.
Mais tu ne crois pas si bien dire, Colin. Alors, pour t'éviter la même erreur, voici un tuto pour reconnaître les fachos. Allez, jingle. Père Castagne, raconte-nous une histoire. Père Castagne. Alors, commençons par les bases. Selon un PDF édité par la Ligue de football professionnel et la LICRA avec l'initiative Football Against Racism in Europe, oui, bilingue, voici quelques symboles auxquels faire attention. Le sanglier d'abord, oui. Quand il est stylisé en mode logo, c'est le symbole du bloc identitaire ex-unité radicale, un mouvement d'extrême droite créé en 2003. Leur slogan ? Pas de Karcher, mais des charters. Rime suffisante peut mieux faire. Autre indice, la croix celtique sur fond bleu et rouge, symbole de l'organisation Œuvre française, un mouvement ultranationaliste fondé par Pierre Sidos en 1968 pour la France aux Français, ce qui a donné l'acronyme FAF. Oui, c'est une chronique culturelle. Mais ce n'est pas tout. Comme le soulignent les professeureux et chercheuses à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne, Elke Gogel et Sarah Held, dans leur projet Fashion and the Far Right, un nouveau concept est apparu, le hatejacking. Il s'agit de reprendre les designs de marques de sportswear, mais avec des messages de haine, les petits farceurs. Alors, le linguiste que je suis a ainsi découvert l'existence d'une facho-fashion, aussi appelée fashion. Oui. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes ? Sortez vos chéquiers, voici quelques exemples de marques de vêtements néo-nazis. Alors d'abord, la marque londonienne Lansdale, populaire dans le milieu néo-nazi, malgré elle, parce que si on porte un gilet par-dessus, on ne voit plus que les lettres NSDAP, qui sont les initiales du Parti National Socialiste Allemand. Bon, après, ça ne marche pas à toutes les saisons. Heureusement, il y a Hate Crime, une marque de vêtements américaine néo-nazie commercialisée en Europe. Tout est dans le nom, vraiment. Et une autre option, c'est Master Race Europe, traduisée par race dominante Europe. Par contre, elle n'est vendue qu'en magasin spécialisé ou par vente par correspondance sur des sites spécialisés. Après, mais si Shane arrive à avoir une place au BHV après avoir vendu des poupées pédopornographiques, tout est possible, n'est-ce pas ? Pour les passionnés d'histoire, on pique sans vergogne dans la mythologie scandinave avec les marques, avec des marques comme Thor Steinar ou Valhall. Et si tu étais plutôt Team Jacob, tu as la marque Werwolf. Et enfin, pour les mélomanes, on a des classiques, des t-shirts de groupes allemands néo-nazis comme Screwdriver et Lanzer.
Bon, mais un peu envie de regarder toutes les tenues de Anouk pour vérifier s'il y a des... Bon, mais donc du coup, ils ont l'air quand même plutôt faciles à repérer une fois qu'on a toutes ces informations, Père Castagne.
On pourrait croire ça, hein, mais attention, tout comme les virus, les fachos évoluent sans cesse et la tendance est désormais au normcore. Alors voilà, on s'habille de façon plus sage et la plus beige possible. Tout ça pour faire plus fréquentable. Fini les gros messages racistes étalés sur des pecs gonflés à la salle. Nous sommes désormais dans l'ère du petit logo sur des polos, dans un style prépi ou des matières souples, couleur gris, neutre, basique. Bon, après, vous me direz des hétéros chiants comme la pluie, en vrai, ça se repère vite. Hein. Et vu qu'on les a grillés, bah, ils essaient de trouver de nouveaux symboles. Figurez-vous que j'ai trouvé un exemple, un très joli petit t-shirt avec un motif loutre et la phrase « Ma rivière, mes règles ». Alors là, j'avoue, moi, ça m'a laissé perplexe. Nationaliste ou girl power écolo, le doute est permis. Tellement bien caché, il passerait presque pour féministe. À quand la mode des bagots pouces pour les meufs d'extrême droite ? Pitié, achetez-vous une personnalité, en fait. Et puis, enfin, mettez-vous à jour les loulous. Tout le monde le sait, les loutres, c'est les transmasques avec un bidou et une barbe toute douce, en fait. Voilà. Alors oui, les fachos sont toujours là, mais on n'est pas démunis. Parce que moi, ce que je remarque, c'est que leurs logos, ils sont de plus en plus petits. Mais nos drapeaux, nous, ils se mettent de plus en plus gros sur nos vêtements. Et la rue, elle est à nous, mais la mode aussi.
Oh bah merci beaucoup Père Kalstein, ça finit bien finalement. Merci beaucoup. Chris, tu restes avec nous, le débrief queer de la Star Academy, ça continue dans un instant dans le lobby de Radio Campus Paris. Et c'est juste après le titre de mon crush musical du moment, c'est Lauren Oder sur Radio Campus Paris Praxis.
Misinterpret every word spoke. I'm not strong, no tower, no oak. You know your skin doesn't bring hope. It's not supposed to, it just gets you close. What more can I explain? A whole world that I contain. It's not a matter of better days. A generator whenever I say that every time I walk out of the house, that's praxis. Every step I take, it's the world. Capture most of its glow. She was scared laying barefoot. How does it feel? We've arrived your home. What more can I obtain? At least on life that I have gained. It's not a matter of better days. A generator whenever I say. But every time I walk out of the house, that's praxis. Every step I take keeps the world on its axis. All the little things learn to keep this true. All the sleight of hand just to make it through.
C'est le dernier tube de Lauren Oder à découvrir le 29 avril au hasard ludique. Il est 20h32.
Le lobby.
Et je crois qu'il faut toujours écouter
Radio Campus Paris.
Et on parle encore Starac dans le lobby à quelques jours de la finale d'une saison historique. On en parle avec une fan, c'est Chris D'Acugna qui est toujours avec nous. Alors en 2023-2024, il y avait Jaybreel, on en a parlé tout à l'heure, on a écouté son titre qui était donc ostensiblement queer. Et Axel qui était plus lisse, qui était pas très à l'aise avec son homosexualité. D'ailleurs, on peut retrouver un peu des similitudes, tu en parlais tout à l'heure avec Victor, avec ce côté « sors de ta coquille ». Il y avait Michael Goldman, le directeur, qui lui a dit « tu vas chanter Don't Stop Me Now, oh, vas-y, tu vas être Beyoncé sur scène, ça va être génial ». Il lui disait genre là, il était très effrayé quoi. Et on avait parlé avec toi il y a 2 ans du fait que c'était des représentations aussi assez attendues, ces deux représentations PD. C'est des choses qu'on connaît, c'est des choses avec lesquelles le public de TF1 est déjà un peu familier. Est-ce que là, Victor et Bastian, selon vous, ils apportent quelque chose de nouveau, quelque chose d'un petit peu plus fin dans la représentation? Peut-être Alexis, tu veux commencer là-dessus?
Je pense que oui, ils peuvent tenter de l'apporter, mais c'est qu'il reste quand même toujours dans ce cadre de la Star Academy qui reste quand même un moule où, de manière globale, même en dehors de questions de représentation queer, on leur dit pour toucher les gens, il faut faire ça, il faut chanter de telle et telle manière. Sur scène, on doit se déplacer, se mouvoir de telle et telle manière. Donc je pense que, que pour eux, au sein de cette émission, ça reste compliqué. Mais après, effectivement, je pense que, comme tu le dis, on demande à Victor d'incarner des représentations qui sont déjà connues du public. Mais après, justement, moi, je me dis que heureusement, finalement, qu'il n'a pas gagné et que peut-être on pourra le voir faire totalement autre chose en dehors.
Et être plus libre que s'il avait gagné,
ouais,
peut-être.
C'est vrai que moi ça me rappelle aussi sur Jaybreel, on essaie de gommer parfois le fait qu'il faisait des petites vibes et tout ça, et là j'ai l'impression qu'on essaie peut-être d'accentuer parfois certains traits, du coup ce qui est plutôt appréciable, notamment sur Bastian où on va le mettre en avant sur justement son côté performeur. Victor, on a pu le voir danser en crop top, chanter toxique, donc bon,
et Rise Like a Phoenix,
complètement. Donc je me dis peut-être que même si c'est des personnages entre guillemets mais qui peuvent être similaires, bah peut-être que peu à peu on va appuyer sur des choses plutôt que d'essayer de les gommer et de les lisser.
Ce que je trouvais intéressant aussi, c'est je me suis demandé un moment si enfin, on est tenté forcément de faire ce rapprochement avec Jébril et Axel d'il y a 2 ans, quitte parfois presque à les mettre en concurrence malgré nous. J'ai vu, c'était dans une interview donnée à Pure Média, un journaliste qui demande à Victor « Qu'est-ce que ça vous fait d'être la première personne queer en demi-finale ?» Ce qui est complètement oublié, le fait que Axel a lui-même accédé à la demi-finale. Et on pourrait extrapoler en disant que Micha Kwiatkowski, il y a plus de 20 ans, a lui aussi accédé à la demi-finale, même s'il n'était pas out à l'époque. Qu'est-ce que ça veut dire ça aussi, en fait, finalement? C'est genre Victor, il met du maquillage, donc lui, il est vraiment queer et un truc un petit peu comme ça qui se joue.
Bah Axel, il était dans l'homosexualité plus acceptable, oui. plus on se cache, quoi. Et complètement. Et oui, c'est ça, en fait. Je pense que ce que ça veut dire derrière, c'est pas la première personne queer, c'est la première personne qui est un peu gender non-conforming, ouais. Quoi, qui va un peu plus... Peut-être que si Jébril avait été en finale, peut-être que du coup, ça aurait été plus visible et peut-être que le journaliste aurait pas dit ça.
Peut-être. On va écouter d'ailleurs une séquence tout à fait sur ce thème. Ça va être la voix de Victor à nouveau. C'est pendant un cours d'expression scénique.
Je me suis beaucoup posé de questions sur mon genre. Quand j'étais petit, je disais tout le temps j'aurais voulu être une fille et tout. Et c'est un truc ça qui m'a beaucoup suivi. Et c'est récemment que j'ai vraiment fait le... Comment dire? Pas le deuil de ça, mais vraiment de me dire je suis un garçon, mais je déconstruis la case. Enfin, c'était tout un cheminement de me dire je déconstruis ce truc-là et je suis ce que je suis. Et parce que sinon, pendant longtemps, je faisais un peu back and forth. Enfin, j'étais en mode, ouais, peut-être que je suis transgenre, mais je l'assume pas. Et c'est trop dur, le cheminement et tout. Ou alors, peut-être que je suis juste un mec et... Enfin bref, c'était tout ce truc-là. Mais du coup, ça fait souffrir parce que tu sais pas trop ce que t'es pendant longtemps. Et pareil, du coup, mon rapport au maquillage, mon rapport au drag et tout, il était d'un coup malsain parce que je me disais, peut-être que je suis juste transgenre, mais je l'assume pas. D'un coup, il était plus fun parce que c'était vraiment de l'art. Et récemment, je me suis dit que c'était vraiment performatif et que c'était juste pour être cette pop star de mes rêves depuis que je suis petit.
Bon là, Chris, on est quand même dans une représentation super fine, en fait, de l'homosexualité sur le petit écran.
Bah, et de parler de questions de genre qui sont... Il n'y a jamais de personnes transgenres dans la... En tout cas, à ma connaissance, dans la Star Academy, l'a abordé cette question du genre. Jébril l'a fait dans son EP, mais du coup, pas pendant la saison. Et puis, moi, je sais pas, il y a des mots aussi, en tant que personne queer, mais quand il dit faire son deuil, et du coup, je suis un peu genre, ah mince, en fait, peut-être que. Est-ce que tu l'as pas mis? Bref, je suis pas psychanalyste. Mais voilà, je sais pas, ça m'a un peu fendu le cœur d'entendre
en parler. Parce que là, en fait, Victor, il s'adresse certes au public de TF1, mais il s'adresse quand même au PD, en fait. J'ai l'impression qu'il y a aussi. Si on pourrait dire que c'est une expérience très partagée chez les mecs gays, enfin, ou les mecs, qu'est-ce que ça veut dire, mais chez les PD, de se poser la question de son genre, etc. Et il y a peut-être aussi un tabou qu'on partage là, et Victor, il met un peu ce pavé dans la mare en disant, mais ok, mais Russ, en fait, on a cette expérience un peu en commun, enfin, peut-être pas de généralité, mais c'est quand même assez fou de se dire, là, c'est bon, là, c'est à moi qui parle vraiment, quoi, c'est pas à tout le public de TF1.
Ben, c'est vrai, on est quand même dans une ère télévisuelle post-Drag Race, et du coup, on sait qu'on est face quand même à un public qui commence à être un peu plus éduqué sur ces questions-là, ou en tout cas, c'est moins. C'est pas réservé aux confessions intimes et histoires tragiques de parler de ces questions de genre. Enfin, on l'a beaucoup vu dans Drag Race et c'est très bien fait de manière très fine.
On l'a vu dans la Star Academy aussi. Il y a tout un slam de Bastian, très très beau, mais voilà.
Exactement. Et du coup, je pense qu'ils ont peut-être aussi un peu moins peur, parce que c'est quand même la même société de production,
ouais,
en démol, de justement montrer ces narratifs-là. Et du coup, lui aussi, même en tant que personne qui a vu Drag Race à la télé les étés précédents, et se dire, bon, bah, en fait, c'est peut-être moins dangereux pour moi d'en parler, ou en tout cas, je serais moins coupé dans mon discours dans cette ère-là, quoi.
Et puis, du coup, il y a leurs paroles publiques pendant les émissions, mais il y a aussi leurs performances qui sont assez inoubliables. Deux duos qui m'ont marqué, c'était deux duos surprises d'ailleurs, celui que Bastian a chanté avec Edith Preto sur la chanson Kid, et puis celui que Victor a chanté la semaine dernière avec Bilal Hassani, c'était sur Roi, tout simplement, je crois. Donc, c'était quand même des très très beaux moments, et c'est pas anodin qu'ils aient eu lieu. Et puis d'autres moments inoubliables aussi, Bastian sur Comme ils disent d'Aznavour, ça donne une autre profondeur à cette chanson. Et Victor sur cette performance qui, moi, m'a tiré quelques larmes, et je crois que tu as des choses à en dire, Chris.
Quelqu'un frappe à ma porte, je sens mon pouls qui s'accélère, le temps s'arrête. J'ouvre la porte, c'était l'amour, oui c'était lui que j'attendais. Lui le feu qui me consume, ce même homme qui m'allume, qui me rend chienne, qui me rend bête, et qui m'éteint quand ça lui chante. J'suis tombé amoureux d'un pas de bord. Me poser pas de questions. Croyez pas, je m'en fous, il m'aime. Le temps d'une chanson.
Voilà, Victor qui chante Bad Boy Dieselt, qui est elle aussi une candidate de Télécrochet d'ailleurs, dans sa séquence autoportrait. Bon bah c'est magnifique ce qui se passe à ce moment-là sur scène.
Et c'est considéré comme c'est le début de sa flop era où il était justement oui. Ça avait été beaucoup enfin tous les profs lui avaient dit bah c'est le rendez-vous manqué, ça s'est pas bien passé du tout. Bon moi j'ai pas trop compris ce qu'il racontait. Bon c'est quand même du coup dans une séquence où il chante Toxic, ensuite il chante ça, il finit par Rise Like a Phoenix. C'était beaucoup de queerness d'un coup, mon petit cœur était rempli. Et surtout juste avant qu'il chante ça, en fait, il y a ses amis qui lui font une surprise et il dit, et donc du coup, c'est un moment pas scripté. Du coup, il dit, ah ben, avec les mecs, ça allait pas du tout. Et donc, du coup, le fait qu'ils disent, il parle de mecs, qu'il parle de ses ex, je pense que ça aurait pas été écrit comme ça s'il avait lu le prompteur. Ouais. Et du coup, il y avait un truc très naturel, très, et du coup, c'était hyper après. Enfin, toute cette séquence-là était assez folle. Et aussi, un truc qui m'a fait, enfin, que j'ai beaucoup aimé chez Victor, c'est aussi le fait que, bon, même s'il pousse ce narratif de la famille, on les voit retourner dans leur famille nucléaire, leurs parents et tout ça. En fait, principalement Victor on le voit entouré de ses amis, ouais. Et du coup il y a vraiment tout un discours je trouve quand on le voit autour de la famille choisie, c'est vraiment ses amis qui sont autour de lui plus que ses parents. Il en parle souvent en plus de ses parents qui n'ont pas forcément été là pour lui, qui lui ont pas donné confiance, qui lui ont pas donné les outils, et en fait on le voit toujours entouré de ses copines, de, et du coup je trouve ça hyper beau de le voir justement autour de cette famille choisie, et puis voir aussi des exemples de familles un peu différentes à la télé.
On parle forcément beaucoup de Victor et Bastian dans cette émission, qui sont donc les candidats ouvertement queer dans cette saison. Mais je l'ai dit, ça a été aussi une saison riche en spéculations sur l'orientation de Mélissa, de Ambre, etc. Et d'ailleurs, je me demandais même, mais est-ce que c'est bien ce qu'on est en train de faire, là, de spéculer sur l'orientation sexuelle de, en plus, Mélissa et Ambre, on parle des candidates les plus jeunes, respectivement 19 et 18 ans. Quel regard vous avez là-dessus, Alexis, Chris, peut-être Alexis là-dessus?
Oui, bah, effectivement, comme tu le dis, quoi, ça reste beaucoup de spéculation. Donc, on a simplement Mélissa qui a parlé du fait que la chanson qu'elle avait chantée avec Mickey pouvait représenter un petit peu elle, ce qu'elle est, sa vie.
Particule. Et puis, il y a eu aussi la chanson Allo Lola avec Superbus, voilà, où en plus, qui finit, tu parlais des mises en scène de mariage. Bah, là, on a eu une mise en scène de mariage, mais avec la chanteuse de Superbus et Mélissa, ce qui était inattendu.
Tout à fait. Et donc voilà, en dehors de ça, ça reste compliqué de définir si elles sont queer ou pas, enfin voilà. Donc bon, on peut se dire oui, c'est mignon de voir une relation possible entre les deux, en même temps, bon bah on va éviter de parler à leur place. Et d'ailleurs, bah, Mélissa, elle l'a dit lors d'une interview après son élimination, qu'avec Ambre, il y avait juste une amitié très forte. Ouais. Donc, bon, bah voilà quoi. Les restants seront là, je pense, c'est très bien.
Toi, Chris, qu'est-ce que ça t'évoque, ce besoin que peut-être nous on a de voir aussi ces relations émerger, d'essayer de les capter tous les signes, t'en parlais un petit peu tout à l'heure.
Bah, c'est qu'on n'en voit pas assez en fait. Ah ouais. Si on en voyait un peu partout sur tous nos écrans, peut-être que finalement quand il y aurait des choses qui peuvent être anodines, bon, on les verrait pas sous cet angle-là. Après c'est vrai que c'est rien de spéculer et c'est pas forcément une bonne chose, mais en tout cas je pense pas qu'on le fasse dans une intention un peu
bien
mauvaise
sûr.
Que de se
voyeuriste.
Que exactement ou même de les sanctionner pour ça, ouais. Quoi. En fait on va chercher à s'identifier aussi à elles, à leurs histoires, et du coup on cherche aussi des, mais en fait c'est aussi des, on est des personnes désespérées de voir le moindre petit signe qu'on puisse être représenté à la télé.
Victor, il dit ce matin même dans Le Parisien, je suis très fier qu'une personnalité queer puisse être visible. Moi, ça m'évoque des... C'est un discours qui suscite toujours chez moi des sentiments un peu contrastés, parce que d'un côté, oui, indéniablement, on a besoin de présence de personnes queer comme ça et de représentations positives à l'écran. Et de l'autre, j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu la théorie du ruissellement appliquée à la visibilité queer, c'est-à-dire je suis visible, donc vous allez théoriquement en profiter. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous ?
Que le chemin il est long quand même, on n'y est pas encore, et je trouve que un des exemples c'est quand même la carrière de Bilal Hassani, quoi. C'est-à-dire que je sais pas trop ce qu'on a bénéficié du fait qu'il se soit tant exposé, tant mis en danger pour toute la communauté, et dont il a reçu, je trouve, en tout cas à mon avis, assez peu de soutien, déjà pas du tout du public, mais pas tant que ça de la communauté non plus, alors que franchement j'ai jamais vu personne se mouiller autant pour nous, et je pense qu'on lui est beaucoup redevable, mais ça a aussi prouvé, je pense que économiquement ça intéresse pas les maisons de disques ni rien, ce genre de discours et ce genre de performance. On veut pas voir des mecs flamboyants performer, en tout cas ça rapporte pas d'argent. Si Bilal ça a pas marché, ça marchera pas, donc en fait moi ça me laisse un peu, je me dis cool pour Bastian et cool qu'il puisse avoir cet espace là, mais est-ce que faut aussi de la place pour diverses identités qu'on a quand même pas, quoi.
Merci beaucoup Chris, on va s'en tenir là pour ce débrief queer de la Star Academy. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. La finale c'est ce samedi, tu vas regarder quand même?
Quand même, je jetterai un œil.
Allez. Et tout de suite, je crois que c'est l'heure de la petite surprise qu'on nous a préparée avec que nous ont préparé Nagwin et Nikos Aliaguer. On vous écoute.
Bonsoir. Ce soir, on vous propose de relire à travers un blind test une histoire du télécrochet à travers les hits d'artistes qui y sont nés.
Le jeu est simple, vous trouvez le plus vite possible le nom de l'artiste et le nom de la chanson et vous répondez par vrai ou faux aux anecdotes surprenantes.
Okay.
Nous serons intraitables.
On va lancer la première musique.
Il avait les mots chez les Falunas.
Bravo.
Je pense que ça va être sans appel.
Rapide, Chris. Alors, une première anecdote. En 2007, les salons de coiffure Franck Provost proposaient sur leur catalogue la coupe Sherifa et ont notifié un vrai regain dans la fréquentation les deux années qui ont suivi. Vrai
c'est
ou faux ?
Vrai.
C'est vrai.
C'est faux, c'est faux, c'est complètement faux. On
peut continuer.
On aurait voulu
la prochaine.
Très fort. Moi, c'est Camélia Jordana.
Bravo.
Nouvelle star. Alors, très nouvelle star.
En décembre 2023, Camélia nous a fait l'honneur d'interpréter la chanson « Quand reviendras-tu » de Barbara, assise sur une toilette en lisant les paroles sur du PQ.
Vrai ou faux ?
Attends.
Vrai ou faux ?
Très précis.
Non, non, j'y crois pas.
Elle a interprété Barbara sur des toilettes avec des paroles
en
sur du PQ.
En même temps, je sais pas.
Non. Vrai ou faux, je sais
faux,
pas.
Faux. Allez.
Mais non, c'était vrai, c'était pendant Plutôt vomir que faillir de Rebecca Chaillon.
Oh waouh.
On écoute tout de suite la troisième chanson.
Ça, je connais ça.
Géographiquement, on est de quel côté ?
C'est Noël le Roi, Trimartelode.
Alors, le titre, c'est Noloen, mais le titre...
J'entends le loup, le renard et la belette. Voilà.
Alors, c'est la jument de Micha. Ah, c'est ça le titre exact. Oh là, le point est perdu. Et on a un vrai ou faux. Alors, fière ambassadrice de la Bretagne, Noloen est l'heureuse maman d'un petit Poséidon. Vrai ou faux ?
Ah non. J'espère que
en
c'est
vrai,
faux.
C'est un animal.
Non, c'est non. Faux. Non. Mais elle est mère d'un petit marin, quand même, ça s'en rend pas.
Ah, moi, j'ai failli m'appeler marin. C'est comme ça, la Bretagne.
Je n'emporte rien, vraiment. Je veux vivre d'autres.
Tournez la page.
Effectivement, c'était Tourner ma page de Jennifer.
C'est beaucoup trop intensément.
Alors, vrai ou faux, Jennifer nous a fait le plaisir de prêter sa voix à l'emblématique insecte Maya l'abeille dans La grande aventure de Maya l'abeille, film qui nous a éblouis en 2015.
Ah oui, oui, elle en est capable.
Oui, cette belle voix de Jennifer dans Maya l'abeille. On s'en souvient tous.
Comment c'est possible ?
Les âmes en peste de lire en lire. Dans les hôtels.
En régie. Vas-y, dis-le nous.
Pour fuir toute cette mélancolie.
Louane, non ?
Oui, c'est Louane. Et le titre ?
Maman.
Oui, bravo. Le point est à la régie. Alors, on a un vrai ou faux quand même autour de la table, si vous voulez vous rattraper. Ouais. Louane s'appelle en réalité Anne Pécher.
Oui.
La chanteuse a choisi ce pseudonyme avant sa participation à The Voice, car c'est la contraction de son prénom et de celui de sa sœur, Louane.
Oui, c'est ça. Hein.
C'est tout à fait ça, c'est vrai.
Bravo, le point est gagné. Allez.
J'ai jamais entendu parler de ça.
Je crois que j'étais bien trop lâche pour lui dire adieu les yeux dans les yeux.
Oui.
Parti sans même prendre bagage.
Pas tout de suite,
c'est la dose d'hétérosexualité de ce soir, c'est elle m'a aimé. Donc le point est perdu. Mais il y a un vrai ou faux pour vous rattraper en parlant d'hétérosexualité. Kenji Girac a eu une amourette secrète avec la non moins secrète Mazarine Pinjot.
Non.
Cette relation s'est brutalement arrêtée au moment où Ali Badou, son compagnon actuel, a pris la direction du 6-9 du week-end sur France Inter.
Non, non, c'est pas possible.
Effectivement, le point est gagné, c'est pas possible.
Et on continue. Nous reste, c'est l'avant-dernière chanson. Bravo, le point gagné, je l'appelle. Vrai ou faux, Coralie de L5 s'est rappelée avoir été la babysitter de Flora Hollande, l'une des filles que Ségolène Royal avait quand elle était députée des Deux-Sèvres.
Est-ce que c'est possible dans le temps? Oui, c'est possible.
Ouais, c'est possible.
C'est vrai,
ouais.
C'est vrai, tout à fait. Le point est gagné.
Dans les L5, pitié, dites-moi.
Ah oui, Claire,
oui,
Claire.
On dira que oui.
Oui. On pourra faire une émission sur Claire, mais oui.
Une petite dernière.
Ouais.
Tous les vents.
Ah, Alizé.
Ah, les baisers d'Alizé. Non,
et donc, comment dire?
Ah oui.
L'Alizé.
L'Alizé. C'est grâce à sa participation à Graines de Star en l'an 2000 qu'Alizée a été remarquée par Mylène Farmer. La chanteuse lui a écrit d'ailleurs son premier single, Moi Lolita.
Oui, c'est
bien
vrai.
Sûr.
Et ben voilà,
oh, bravo,
l'évidence.
Eh ben, on écoute alors l'Alizée.
Je suis comme le vent, j'embrasse toute une armée de rêves et de bleuets. Me plonger dedans, je sais ce que je sais, même si je pleure.
Eh ben c'était Alizée sur Radio Campus Paris avec l'Alizée. Merci beaucoup Nagouine et Nico Saliaguet.
Avec plaisir.
Vous avez été formidables.
Vous revenez bientôt, j'espère.
Avec joie.
Bien sûr.
Je crois qu'on peut vous voir de temps en temps. En plus, je vous ai déjà vu quelque part.
Tout
j'ai déjà entendu parler de vous.
Aux souffleuses, on anime des blind tests absolument inoubliables.
Et le prochain, c'est le 17 février et le thème, c'est Dans nos placards.
Voilà.
Bon, ben super, on a toutes les infos. Merci beaucoup. Allez, il est 20h54. Il nous reste encore quelques minutes ensemble. On a beaucoup parlé de représentation queer à l'écran. Et je crois que ce n'est pas tout à fait fini, puisque J'avais la Bibi est de retour pour continuer de passer les films de l'histoire du cinéma au baromètre du cringe.
Et oui Colin, et ce soir je voulais vous parler d'un film de 97 qui passe le test du cringe haut la main, c'est Contact de Robert Zemeckis avec Jodie Foster. Alors pour celles et ceux qui la connaîtraient mal, dès les années 90, Jodie Foster arrive à imposer à Hollywood une féminité puissante et qui ne minaude pas, même si dans Le silence des agneaux, Hannibal le cannibale lui dit qu'elle porte des chaussures ringardes. Et bah pas besoin d'être bien fringuée, elle est aussi badass que Sigourney Weaver dans Alien, mais une badasserie plus intello-sapio. Ici elle joue une scientifique, donc son arme c'est pas le lance-flamme, c'est plutôt une calculette et un stylo bic, et ça marche. Alors Contact, c'est l'histoire d'une chercheuse obsédée par les sons dans l'espace et convaincue qu'en écoutant suffisamment loin et longtemps, on pourrait découvrir quelque chose de nouveau. Voilà, tout ce que nos ex n'arrivaient pas à faire. Écouter loin et longtemps. Et c'est déjà ce qui m'a bouleversé, c'est un film sur le son. Tous ses collègues scrutent l'espace, mais elle, elle l'écoute, persuadée qu'une forme de vie va apparaître. Ça dit quelque chose de la confiance dans un lien dont elle attend qu'il se manifeste, parce qu'elle, elle y croit. Et ça fait des années qu'elle est obsédée par ce son qui lui manque. Alors d'ailleurs, au début, on frémit un peu, hein, parce qu'on la voit gamine passer des nuits à envoyer des messages radio sur la CB de son père. Et on se dit que, passé 23h, la seule forme de vie qu'elle risque de contacter, c'est quand même plutôt un camionneur un peu bourré. Mais le film, comme le personnage, fait confiance à la bonne intelligence. Alors depuis, Interstellar est passé par là, qui essayait de nous faire avaler que le type communiquait avec le passé à travers le tic-tac d'une montre, coincé depuis derrière une bibliothèque, hein, vous vous en souvenez? Et Gravity? Alors Gravity, c'est ce fou rire mémorable hein, quand même, de voir la pauvre Sandra Bullock dérivant dans l'espace avec pour seul moyen de locomotion un extincteur. Donc Jodie Foster assise au pied d'une antenne satellite, on pouvait s'attendre à un gros nanar de l'espace, mais pas du tout. Le film est haletant, poétique. Au final, il y a un seul truc cheesy, c'est qu'il y a déjà Matthew McConaughey. Alors bon, il est clairement là parce que quelqu'un a dû se dire qu'il fallait insérer quelque part une très vague intrigue romantique. Voilà, c'est un peu comme le pot de tapenade à l'apéro dînatoire. Quelqu'un l'a ramené par peur que ça manque, mais personne ne va y toucher. Du coup, voilà Matthew en manteau long, homme de foi qui croit, mais qui croit pas, amoureux, mais pas fiable. Oh, franchement, c'est bon, on la connaît cette histoire. On l'a vécu nous aussi, avec notre ex, toujours le ou la même. Et en plus, on le voit même pas torse nu. Alors qu'on le sait que si ça avait été une femme, sous le long manteau, il y aurait eu des jambes apparentes et des stilettos. D'ailleurs, vous connaissez peut-être ce test de la lampe sexy. Dans un scénario, remplacer le personnage principal féminin par une lampe sexy. Si l'histoire ne change pas, ce film n'est pas féministe. Bon, au final, je vous spoil un peu, mais c'est pour vous donner envie de le voir. Jodie fait une rencontre surnaturelle. Sauf que, plot twist, elle ne peut pas le prouver. Et pour un projet scientifique à 180 000 boulards, c'est un peu ballot, car tout ce qui lui reste, c'est sa parole contre celle de l'institution américaine qui veut réécrire l'histoire et le récit national. Et là, soudain, ça nous rappelle quelque chose. La voilà décrédibilisée, on attend qu'elle prouve ce qu'elle dit. Et rien que pour cette scène où Jodie Foster sort du tribunal et où une foule l'attend dehors pour lui dire « on te croit », le film m'a bouleversé et je trouve qu'il résonne à travers le temps. Dans un monde qui ne croit que ce qu'il voit, quitte à fabriquer les images qui l'arrangent, on suit cette femme qui croit sans voir et qui nous rappelle l'importance aussi d'écouter, dans un équilibre entre la confiance et le regard critique. Et c'est peut-être ça au final, la modernité du film, une invitation à observer et à entendre comme une façon de garder le contact.
Oh bah merci beaucoup, j'avais la bibi, super. On rappelle peut-être les références du film dont tu nous as parlé.
C'est Contact de Robert Zemeckis.
Avec Jodie Foster.
Oui.
Et c'est le film préféré de Katia Zamolochikova.
En plus, génial. Est-ce que tu peux peut-être nous parler de la prochaine soirée à Bibi, parce qu'on a un petit peu le temps?
Oui, bah alors la précédente a eu lieu le week-end dernier. C'était sur le thème de la nuit au cinéma. Et la suivante...
Et moi, j'étais à un festival de musique classique. Non, mais n'importe quoi.
Bah, écoute, la prochaine, ce sera les 20 et 21 mars à la Flèche d'Or toujours. Et ce sera sur le thème des addictions à l'écran. Donc ça sera deep, mais quand même très... très joyeux.
Voilà, il y a Nico Celiaguet et Nagwin qui ont sorti leur téléphone et leur Google Agenda aussitôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Chris.
Avec plaisir.
Peut-être le mot de la fin. Donc, tu vas quand même regarder cette finale. Tu nous as dit, mais tu vas pas voter.
Non, clairement. Mais j'ai pas beaucoup voté. J'ai fait un vote pour Bastien. Moi, je vote pas trop. J'ai confiance au cœur du public.
Tu as quand même une préférence entre Ambre et Léa?
Ambre, elle aime Lady Gaga. Donc, j'essaie de me raccrocher à ce que je peux. Hein.
D'accord. Ouais, mais elle aime sa mère qui passe beaucoup sur ses news aussi, donc
C'est vrai.
Bon, allez, merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe en studio. Il y avait Alexis, il y avait Chat, il y avait Javel Abibi, il y avait Nagwin et Nico Saliaguet. Je ne spoil pas la véritable identité de ces gens. Et puis en régie à la réalisation, il y avait l'inénarrable Suzanne Cinca. Merci beaucoup, Suzanne. Bravo. Dans un instant, fini les télécrochets de TF1, on part au royaume du cool et de l'underground, ou comme on l'appelle ici, au pays des raves. À tout de suite.